Quel beau chant, n'est-ce pas? Tu es la joie de toute la terre. Et c'est tellement magnifique, ça. Dieu est la joie de toute la terre. Dieu est grand. Eh bien, on veut vous saluer, vous souhaiter la bienvenue. Et surtout, si vous êtes ici pour la première fois, on veut vous dire bonjour. J'ai déjà rencontré une personne ce matin que je rencontrais qui était ici en visite pour la première fois. Alors, salutations si vous êtes ici pour la première fois. Et tous les habitués aussi, on est très heureux de vous voir avec nous. Certaines statistiques nous rappellent l'ampleur des souffrances dans le monde. On peut penser notamment au tsunami qui a frappé le Japon en 2011, 23 500 morts et disparus. Un autre en 2004 où il y a eu 220 000 victimes. On pense aussi aux dégâts de l'alcool, plus de 2,5 millions. On pense aussi au trafic humain. Dans le monde, plus de 27 millions de personnes victimes du trafic sexuel et humain dans le monde. Et si on ne souffre pas en ce moment, on connaît quelqu'un qui est en train de souffrir, n'est-ce pas, autour de nous, ça c'est certain. Juste cette semaine, on a reçu des appels, des personnes qui ont été frappées, soit de maladie, il y a des gens qui luttent avec le cancer ici à l'église même. Il y a des gens qui nous écoutent aussi via l'Internet, il y a des gens qui souffrent en ce moment, soit par la perte d'emploi, soit par quelqu'un très cher. J'en profite aussi pour souhaiter les sympathies à la famille Plouffe, Sylvain qui a perdu sa maman cette semaine. On veut prier pour la famille, l'encourager. Les chrétiens souffrent, c'est une réalité, nous souffrons aussi. Les gens souffrent à l'extérieur, les non-chrétiens comme les chrétiens. On pense même aux martyrs, aux persécutions dans le monde. Plus de 220 000 personnes meurent chaque année. 220 000 chrétiens, juste parce qu'ils aiment Jésus, meurent. Ça, c'est une personne aux 2 minutes et demie qui meurt. D'ailleurs, d'ici jusqu'à la fin du service, 24 chrétiens dans le monde seront tués juste parce qu'ils aiment Jésus. Ça, c'est une réalité. Il y a des gens qui souffrent dans le monde. Et nos prières sont avec eux, évidemment. Mais heureusement, les Écritures, la Bible apporte de l'encouragement, justement, sur cette question-là. D'ailleurs, une des lettres du Nouveau Testament a été écrite explicitement pour ça, pour des chrétiens qui souffraient. Et c'est le message d'un Pierre, la lettre d'un Pierre qui est courte, mais essentiellement, son message est le suivant. Il dit, c'est possible, vous pouvez faire face aux problèmes et aux souffrances de la vie de manière à ce qu'il vous fasse grandir, que vous deveniez même meilleur, purifié et plus grand, plus fort. Et non, être abattu, écrasé, brisé et endurci par la souffrance. Tu vas avoir deux personnes qui vont passer à travers la même expérience, la même épreuve. Une personne va grandir à travers cette épreuve, alors que l'autre va s'endurcir, va prendre une distance, s'isoler et devenir même amer. D'ailleurs, il y a un dicton, Clément d'Alexandrie, qui a dit ceci, il est réputé pour avoir dit, « Le même soleil fait fondre la cire et sécher l'argile. » Même soleil. Alors, c'est le même soleil qui va faire fondre la cire et sécher l'argile. Tu vas avoir deux personnes côte à côte qui vont passer à travers la même expérience douloureuse et difficile. Et l'une d'elles va grandir, va devenir plus compatissante, attentive à l'endroit des autres, alors que d'autres personnes vont s'endurcir et s'isoler. Mais le problème est avec la conception. Comment expliquer la réaction d'une personne par rapport à l'autre alors que les épreuves sont les mêmes, la même situation tragique, dramatique, et une personne va grandir à travers ça et l'autre va au contraire s'endurcir et s'éloigner. Comment ça se fait? Comment expliquer la réaction différente de l'une personne à l'autre? C'est le même soleil, mais la réaction est différente. Comment on explique ça? Le ciel et l'argile sont tous les deux sous le même soleil, mais comment expliquer la différence? Eh bien, la différence se trouve à l'intérieur. C'est la structure chimique de chaque substance qui va faire la différence. Comment elle va réagir au soleil. Et Pierre va dire essentiellement la même chose dans sa lettre. Essentiellement la même chose. Charles Spurgeon est allé un peu plus loin dans cette pensée. Voici ce qu'il a dit. Il a dit, « Le même soleil fait fondre la cire et sécher l'argile, Et le même évangile fait fondre une personne à la repentance et endurcit d'autres dans le péché. Pour certains, le cœur s'endurcit au malheur comme une main au travail. Comment on gère la souffrance? Est-ce qu'on la gère bien? Est-ce que ça nous rend meilleur? Et c'est tout à fait possible, c'est le message que Pierre va livrer à travers sa lettre. Ou est-ce que notre cœur est en train de s'endurcir par les épreuves, les coups durs de la vie? Où j'en suis? Pierre veut nous montrer comment gérer les problèmes de manière à ce qu'elles soient bénéfiques pour nous, nous rendre meilleurs et non pires, qu'on soit plus fort et non plus faible. Et ce message qui est très encourageant dans sa lettre. Il y a définitivement une façon positive de gérer la souffrance, nous dit Pierre. 1 Pierre 1, les premiers 12 versets, versets 1 à 12, Pierre nous explique comment. Ensuite, dans les versets qui vont suivre, les versets 13 à 21, il explique le genre de personne qui gère bien les problèmes. Il commence en disant, voici ce qui se trouve à l'intérieur. Voici la structure à l'intérieur. Et le message qu'il dit essentiellement, c'est que ce sont les personnes saintes qui pourront bien gérer les problèmes et les gérer de manière à grandir à travers les problèmes. Pierre est en train de nous dire, voulez-vous savoir comment gérer la souffrance? La réponse est surprenante. Il va dire, vous avez besoin d'être saint. Pierre ne va pas juste nous balancer un concept théologique puis partir après puis qu'on se débrouille avec ça. Non, ce qu'il va faire, il va continuer sa discussion sur le sujet en nous montrant comment devenir de plus en plus saint. Si effectivement la sainteté va contribuer, va avoir un impact, des incidences sur notre façon de gérer la souffrance et faire face à la souffrance, de sorte qu'on devienne meilleur et plus fort, Pierre va prendre le temps de nous expliquer comment devenir de plus en plus saint. Dans le premier passage, il nous est dit, vous pouvez faire face aux souffrances de manière à ce qu'ils vous rendent plus fort. C'est possible. Et le deuxième passage, il dit, voici le genre de personne que l'on a besoin, d'aide pour être saint. Voilà ce qu'on a besoin d'aide. À partir du verset 22, il va commencer à nous dire comment devenir saint. Et premièrement, on sait que c'est important de parler de sainteté. C'est important. Mais si on est honnête, on est un peu mal à l'aise devant la question, le sujet de la sainteté, parce qu'on se sent tout coupable. Dès qu'on commence à parler de sainteté, là, ça vient nous chercher dessus parce qu'on est vulnérable, n'est-ce pas? On lutte toute la gang, on lutte avec la sainteté. Que quelqu'un me dise, ah, moi, là, je suis rendu, je suis arrivé, là, puis je ne lutte plus avec ça. C'est pas vrai. On lutte tous avec ça. Et c'est ce que Pierre va parler ici. Il nous donne une description comment une personne peut être sainte. Alors, on va tourner ensemble dans ce passage qu'on veut regarder ce matin et dans les prochaines semaines. 1 Pierre, chapitre 1, et on va commencer la lecture au verset 22. Et on va poursuivre au verset 3 du chapitre suivant. Donc, 1 Pierre 1, 22, si vous voulez bien. Alors, 1 Pierre 1, 22 qui commence en disant, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous êtes nés de nouveau. » Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Prions. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce passage et certainement pour cette lettre, car il nous arrive tous à passer par des moments difficiles de souffrance où la vie est lourde et c'est facile de se laisser sombrer dans le découragement. Mais voici un message que nous avons besoin d'entendre, ce message que tu livres à travers la plume de Pierre et que ton esprit a inspiré qu'il est possible pour chacun d'entre nous de gérer, de faire face à la souffrance de manière à grandir, à nous fortifier, à devenir meilleurs. Et c'est ce qu'on veut pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, c'est la grosse mode maintenant, le détox pour la santé, être sain de corps et d'esprit. C'est un thème populaire qu'on va voir. D'ailleurs, on parle de cure détox. Et le principe, c'est de purifier notre organisme. D'ailleurs, voici une publicité sur un régime détox. Il dit, pourquoi faire un régime détox? Eh bien, comme le moteur d'une voiture, l'organisme s'encrasse. Il accumule des déchets qui, à la longue, perturbent son fonctionnement. Les cures détox sont destinées à le purifier afin de lui insuffler une nouvelle énergie. Eh bien, au cours des prochaines semaines, c'est ça qu'on va faire. On va prendre une cure détox. On va faire une cure détox spirituelle ensemble. Et on va faire un régime spirituel et on va découvrir qu'est-ce qui purifie le cœur et comment on peut lui insuffler une nouvelle énergie. On va même fournir des outils dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, on va juste regarder la base, on va jeter la base, regarder un bon fondement et on va construire là-dessus. Mais même, on va vous donner des ressources, des outils, ça va être pratique et vous allez pouvoir partir avec ça, que vous pourrez utiliser même en couple, à des moments enrichissants et dans les groupes maison, les responsables de groupes maison et vous allez tous recevoir de bons outils prochainement. On est en train de préparer tout ça pour vous. Mais ce matin, on veut juste s'arrêter sur la base, on veut bâtir, donc comme une bonne construction, ça prend une bonne fondation, et on va regarder ça. Et la raison est bien simple, c'est parce qu'on veut faire face aux défis de la vie de manière à ce qu'on puisse grandir et être plus fort, qu'elle nous rende plus fort. Pierre va commencer en nous donnant une exhortation dans 1 Pierre chapitre 2, verset 1, il donne une exhortation, il dit « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, toute ruse, de toute hypocrisie, l'envie et la médisance. » Pierre nous exhorte à marcher dans la sainteté. Mais comme un bon communicateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous expliquer comment y arriver. Et c'est ce qu'il fait dans versets 22 à 25. Au verset 22, il résume ce que les chrétiens sont censés faire régulièrement s'ils veulent grandir dans la sainteté. Et voici ce que le verset 22 va dire. Il dit, vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Il dit, « Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. » Et ce que Pierre est en train de faire ici, on voit un processus. Il est en train de fournir un processus. Il y a une dynamique ici qui se passe. Et c'est en suivant ce processus qu'on va grandir en sainteté. C'est ça qu'on veut s'arrêter pour regarder. Alors, la série Détox pour l'âme va nous permettre de comprendre ce processus dont Pierre est en train de parler ici. On va commencer en jetant les bases, et la base se trouve au verset 23, alors que 1 Pierre 1, 23, Pierre va dire ceci. « En effet, vous êtes nés de nouveau. » Alors, il est évident qu'il parle à des gens ici qui comprenaient très bien la nouvelle naissance, mais il rappelle, il parle, il s'adresse à un public, à des gens qui sont nés de nouveau, et il rappelle ces vérités. C'est essentiel de revenir constamment sur la nouvelle naissance, parce que c'est la base. Alors, voici ce qui se passe. Comment se purifier en obéissant à la vérité de manière à avoir un amour sincère les uns pour les autres? Comment grandir en sainteté? Bien, Pierre dit, c'est essentiel, c'est la base, tu as besoin de ça, c'est la nouvelle naissance. Pierre nous montre le secret qui englobe tout. Il recule en arrière à la cause de tout ça, de tout ce qui va suivre. Il nous dit, nous n'avons pas besoin d'être écrasés par la souffrance. Comment? En devenant saint. Ben, il dit, en comment? Mais comment? En vous purifiant et en obéissant à la vérité. Mais comment? Bien, par la nouvelle naissance. Voyez-vous ici tout le processus? Parce que vous êtes né nouveau, c'est possible. Tout s'appuie sur cela et il construit autour de cela. Et tout ce que Pierre nous dit ici ne s'applique uniquement que pour des personnes qui ont passé à travers la nouvelle naissance. On ne peut pas appliquer les principes qui sont donnés ici avec Pierre si on n'est pas passé par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la base, c'est le fondement. Verset 23, « En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. » Il nous faut donc nous arrêter sur la nouvelle naissance, car notre croissance repose sur la nouvelle naissance. C'est vraiment le noyau du christianisme. Et ce passage nous apprend, nous aide à comprendre la nouvelle naissance. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est que la nouvelle naissance est centrale au christianisme. La nouvelle naissance est centrale, nécessaire, définitive, surnaturelle, complète et cohérente. Vous voulez répéter avec moi, là? Alors, si vous êtes convaincu, vous allez le dire bien fort. Là, il est assez tard, 10h47, vous êtes réveillé, tout le monde est réveillé, tout le monde est en pleine forme, vous pétez le feu, tout ça. Donc, le christianisme est central. Nécessaire. Définitive. Surnaturelle. Complète. Et cohérente. D'accord? On va commencer avec le premier. Le christianisme est essentiel, c'est central. Elle est centrale au christianisme. D'accord? Le passage est très court, mais il dit, « Parce que vous êtes nés de nouveau, voici ce qui arrive. » Et cela démontre que les gens auxquels Pierre écrivait savaient ce dont il parlait ici. Et ce que l'on voit dans les paroles de Pierre, c'est que la nouvelle naissance, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option parmi tant d'autres. Il n'y a pas d'autre alternative. Ça s'arrête là, c'est la nouvelle naissance. Certaines personnes au Québec et ailleurs, mais arrêtons-nous ici au Québec et à Gatineau, principalement, comme ailleurs, dans toutes les villes, mais certaines personnes à qui on va parler, ils vont dire, écoute, tout ce qui est important dans le fond, essentiellement, c'est de faire ton bien, faire du bien, être correct, puis pas faire le trouble, pas déranger les autres, surtout pas déranger les autres. Bien, quand ils me disent ça, moi, ça me dérange. Ils me dérangent, parce que je sais que c'est pas ce que les Écritures disent. Donc, déjà, ils sont en train de déranger quelqu'un, là. Moi, ça me dérange. Et parce que les Écritures... Ça dit, non, ce n'est pas une option, tu ne peux pas, tu n'as pas d'autre chemin pour avoir tout ce dont il est question ici, t'améliorer dans la vie et passer à travers, devenir saint, de plus en plus saint et tout ça. Non, certaines personnes vont dire, tout ce que tu as besoin, en fond, c'est de, tu regardes Jésus, puis c'est un beau modèle, on va essayer de faire comme lui. Mon ami, c'est absolument impossible de faire comme Jésus. Et ces personnes-là qui me disent ça, habituellement, je leur pose toujours la même question. As-tu déjà lu la Bible au complet? Du début à la fin. Je ne dis pas, as-tu déjà lu la Bible? Parce qu'ils vont dire, oui, j'ai déjà lu, tu sais. Mais ils ont lu un verset là, dans leur vie au complet. Donc, moi, je mets ça. Non, as-tu déjà lu la Bible du début à la fin? La réponse est 100% non. C'est bien rare. Je n'en ai pas rencontré encore du début jusqu'à la fin. Il y a des gens qui me disent qu'ils veulent faire du bien dans le monde, etc., tout ça, qu'ils l'ont lu d'un bout à l'autre. En tout cas, c'est rare. Je suis certain que ça existe, je suis certain qu'il y en a, mais en tout cas, moi, je n'en ai pas rencontré. Parce qu'une chose est certaine, lorsque tu lis la Bible, tu te rends compte comment Jésus, mon ami, n'est pas suivable de tes propres forces. Tu ne peux pas suivre Jésus. Il est tellement parfait. Il est la seule personne dans l'histoire de l'humanité, du début jusqu'à Jésus, personne, même jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à aimer Dieu de toutes ses forces, de toutes ses pensées, de toute sa volonté, puis d'aimer son prochain comme lui-même, comme lui a fait parfaitement. Personne n'a réussi à faire ça jusqu'ici. Tu as juste à aller sur, au coin de Grébert, puis Maloney à 3h vendredi, puis je te garantis que tu n'aimeras pas ton prochain comme toi-même. Garantie, c'est vite ça, réglé. On peut régler les questions assez vite pour arriver à la même conclusion. Qu'on est pas mal loin de l'exemple de Jésus-Christ. On se comprend? C'est pas vrai, c'est absolument faux ça. On ne peut pas arriver à l'exemple de Jésus. D'ailleurs, même plus tu t'approches d'essayer d'être comme Jésus par tes propres forces, plus c'est frustrant. Parce que plus tu te rends compte comment on est loin de ce modèle-là, puis comment on est pécheur. Jésus est tout à fait sublime, il n'est pas comparable. Je vous ai raconté plus d'une fois cet exemple-là du rabbin, là, mais pour le rappeler, bien, je trouve que c'est tellement précieux comme exemple. Il y a plusieurs années, je suis allé à Concordia, puis il y avait une entente, c'est un département juif, ils ont tout un programme là, religieux, puis un département juif, et puis ils avaient une entente avec les rabbins de Jérusalem. Puis là, il y a un rabbin de Jérusalem qui est venu pour donner un cours pendant 3 mois, et ça s'appelait « Jews and Christians, the Historical Encounter », alors les Juifs et les Chrétiens, la première rencontre. Alors, ce gars-là a accepté de venir à Montréal. C'est un rabbin de Jérusalem. Il forme des jeunes rabbins, tout ça. C'est un docteur de la loi, un spécialiste du judaïsme, tout ça. Tu ne peux pas aller plus loin que ça, là. C'est un petit peu comme un pape, là. à Jérusalem. Alors, lui, il s'en vient à Montréal, tout le monde le regardait. « Wow, un rabbin qui vient de Jérusalem et tout ça. » Il y a plusieurs Juifs dans la classe. Fait que lui arrive, il donne son cours. Et pour donner son cours, il veut qu'il se prépare. Et quel est le premier document historique qui parle de la première rencontre entre les chrétiens et les Juifs? Bien, évidemment, c'est le Nouveau Testament. Donc, pour la première fois de sa vie, il a commencé à lire le Nouveau Testament. Il n'avait jamais lu. Bien, c'est sûr, il était à Jérusalem. C'est un Juif, c'est un rabbin en plus. Il n'avait jamais lu le Nouveau Testament de sa vie. Il n'avait jamais été exposé à ça. Puis pour la première fois de sa vie, il tombe face à face avec Jésus, tel que révélé par Dieu sur son Fils. Il est tombé en amour avec Jésus-Christ. Ah, il venait dans la classe, chaque semaine, il venait dans la classe. Il enseignait les doctrines un peu là, entre les chrétiens, puis les juifs, les pharisiens, tout ça, puis qu'est-ce qui se passait, tout ça. Puis des soirs qu'il venait, puis lui, il continuait à aller, il avait juste ça à faire. Ils avaient fourni un logement à Montréal, puis lui, il se préparait tout le temps pour ses cours, tout ça, puis il disait le Nouveau Testament. Chaque semaine, il arrivait en classe, puis il dit, je n'ai jamais vu un homme dans toute la littérature juive que j'ai lue toute ma vie, lui, il disait ça comme ça, il dit, « I'm a doctor of the law. » Il parlait comme ça, là. « I'm a doctor of the law. » Il dit, « Je connais la loi. » Il dit, « Je connais la littérature juive. Je suis un docteur de la loi. Je n'ai jamais vu un homme aussi spirituel que Jésus-Christ. » Que Jésus. Imaginez, il disait ça dans sa classe. Il y a même une femme juive, hein? Je pense que vous avez déjà compté ça. Il y a une femme juive dans la classe qui a levé la main, puis elle a demandé, dans la classe, devant plein de juifs, elle dit, êtes-vous en train de nous dire qu'on devrait croire que Jésus est le Messie? Hey, mon ami, hein? Moi, j'étais assis dans la classe, j'étais en train de jubiler, là, j'étais là, j'ai dit, ah, mon ami, il se passe quelque chose, tu sais, there is a God! Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, et savez-vous ce qu'il a répondu? Il dit, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas, mais je vais vous dire une affaire. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme Jésus. Et vous savez quoi? Un an après, cette femme-là, juive, s'est convertie et venue au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Conduit au Seigneur par un rabbin de Jérusalem qui n'est pas chrétien. Hey! There is a God! Hein? Hey, c'est assez bon. Mais, moindrement que tu commences à lire les Écritures. Lui, il avait entendu parler de Jésus, ça faisait des années, par des chrétiens, puis eux autres, cette gang-là, les chrétiens. Là. Mais quand il a été face à face avec la révélation de Jésus telle que révélée là, dans le Nouveau Testament, il a été frappé. Frappé. Incroyable. On passait du temps dans le café, juste au bord de la rue, sur Maisonneuve, à Montréal, centre-ville, là, puis on a tellement eu du bon temps, puis tout ça. Puis, c'était super. Moi, j'étais heureux. C'était incroyable. L'occasion que j'ai eue de pouvoir partager l'Évangile au rabbin puis à d'autres élèves. C'était super. Et je me rappelle encore, je me répète probablement, là, mais j'étais. Mais je me sens chez nous ici. Qu'est-ce que vous voulez? Fait que je peux improviser. C'est vrai que quand tu es chez vous, hein, des fois, tu penses à de quoi? Tu me partages. Laissez-moi vous partager ça. Je pense que je vous ai déjà raconté que j'étais dans l'ascenseur ensemble. Une fois, on était tout seul dans l'ascenseur. On sort de la classe. Écoutez, 13e étage à Concordia sur Maisonneuve. Donc, c'est assez haut. C'est assez long pour descendre. Fait qu'on est au 13e étage, on commence, on est tout seul dans l'ascenseur. Puis là, il jouait avec sa calotte. Là, il y a Armoulka, là, le kippa. Il est en train de jouer avec sa calotte. Puis il dit Nom. Il dit, « I do not understand. » Il dit, « Je comprends pas. » Il dit, « Je lis le Nouveau Testament. » Puis il dit, « Ça me brûle en dedans. » Il dit, « I do not understand. » Puis il dit, « Je peux pas parler de même dans la classe, Normand. Il y a quelque chose qui se passe. Je suis un rabbin. Je peux pas parler de même à des Juifs dans la classe. » Hey, j'ai dit, la même chose m'est arrivée, moi, lorsque je me suis converti, puis j'ai commencé à croire que Jésus était Yeshua, Yahamashia. Puis il était là. Ah, c'est dit. Hein? Ah, c'est. Hein? Juste la parole de Dieu dans sa chambre, en train de lire le Nouveau Testament. Incroyable, hein? Pas besoin de 15, 20, 5. Faut pas être un docteur pour partager l'Évangile. Non, il était tout seul dans sa chambre, en train de lire la parole de Dieu. Et Dieu est venu gratter son cœur. Il dit, regarde, je veux que tu découvres Jésus-Christ. Amen. Ah, c'est fantastique. Alors, puisqu'on essaie de ressembler à Jésus, voici un docteur de la loi qui en a vu bien des hommes de Dieu au cours de sa vie, puis des femmes de Dieu au cours de sa vie. Puis, il montre aux gens comment être plus saint. Et lui voit Jésus tel que révélé dans le Nouveau Testament, puis il est frappé par la beauté, la splendeur de Jésus-Christ. Et c'est ce qui arrive. Fait que juste de me dire, ben, sais-tu, je vais regarder Jésus, je vais regarder son modèle, puis je vais essayer de l'imiter. Mon ami, tu vas te décourager, tu vas te déprimer. C'est décourageant. Alors, par la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. On reçoit non seulement le pardon de Dieu, qui est déjà magnifique, tous les péchés qu'on a faits, non seulement qu'on reçoit le pardon de Dieu, mais on reçoit également une nouvelle vie. Et la nouvelle naissance nous donne une nouvelle puissance. C'est complètement différent. Elle nous donne une nouvelle énergie, un nouvel espoir. Dieu met sa propre vie en nous dans la nouvelle naissance. Le salut, c'est complet. Oui, on reçoit le pardon de Dieu, mais on reçoit en plus la puissance de Dieu. On est renouvelé, régénéré. Notre âme reçoit une cure de rajeunissement majeur. On est restauré, changé du tout au tout. Une nouvelle création, dit 2 Corinthiens. La nouvelle naissance est un salut parfait, complet. D'ailleurs, on peut lire dans Hébreux, le passage dans Hébreux, qui dit Hébreux 7, 25. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. La nouvelle naissance est un salut qui est parfait, qui est complet. Chaque fois qu'on retrouve dans les passages dans le Nouveau Testament où il est question du salut, il est également question de la nouvelle naissance. C'est juste une autre façon de parler. Quand on parle de salut, on parle de nouvelle naissance. Mais une autre expression qui va dire la même chose. Par exemple, dans Jean 1, ce qu'on lit, c'est « À tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit, l'autorité, la permission en quelque sorte, le pouvoir dans certaines traductions. » Mais ce n'est pas pouvoir dans le sens de devenir capable, d'avoir la force de devenir. Non, c'est comme une sorte, c'est vraiment ici, j'aime bien, donner le droit de devenir un enfant de Dieu. Ensuite, au verset 13, on nous lisons, « Puisqu'ils sont nés, on parle encore de la nouvelle naissance, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Ça signifie quoi être chrétien? Recevoir Jésus, accepter Jésus, devenir un enfant de Dieu? Ça signifie tous la même chose, la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Ce sont tous des expressions qui veulent dire la même chose. On pense à Nicodème au chapitre 3, par exemple. Voici un homme qui s'approche de Jésus, un autre rabbin, un autre Michael Néoraï que j'ai rencontré à Concordia, mais celui-ci s'appelle docteur Nicodème, un docteur de la loi, un spécialiste en Israël, celui qui enseignait les autres, enseignaient la loi. C'est un docteur, un expert de la loi. Il vient voir Jésus et pose une question à Jésus-Christ. Et Jésus intervient et lui dit, « Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Imaginez dire ça à Nicodème, un docteur de la loi. Le chapitre, juste après, dans Jean chapitre 4, nous voyons une Samaritaine qui s'approche de Jésus, elle s'approche d'un puits, Jésus est là, Jésus commence à lui parler, et Jésus va lui dire, « Quiconque boit cette eau que tu viens chercher ici au puits, là, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je vais lui donner n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. » C'est une autre façon de parler de la nouvelle naissance. Jésus ne lui parle pas de pardon ici, il ne lui parle pas d'être accepté. Non, il lui dit, je vais faire un don. Je vais te faire un don. C'est un don en toi, don de la vie, c'est la vie éternelle. Alors, la vie éternelle dont parle Jésus est comparée à de l'eau. C'est comme de l'eau. Pourquoi? Bien, c'est parce que cette eau-là va devenir une source en toi. Elle va faire jaillir une eau spirituelle, une eau vivante qui va te donner une vie. Maintenant, plus loin, Jésus va se comparer, il va prendre une autre expression. Plus loin, il va se comparer à un bon berger. Il va nous comparer à des brebis. Et il va dire dans Jean 10, 10, « Je suis venu afin qu'elles, parlant des brebis, ça parle de nous autres, des pécheurs, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Et dans ce passage, Jésus parle de la nouvelle naissance comme étant une vie abondante. Une autre façon de parler de la nouvelle naissance. Ailleurs, dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul va parler de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, qui dit ceci, « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. » Donc là, on parle d'une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici sont devenues nouvelles. Jacques 1, 18, nous lisons, « Il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ces créatures. » Voyez-vous, Pierre, Jacques, Jean, Paul et Jésus, ils parlent tous de la nouvelle naissance. Tout le monde en parle dans les Écritures. Et si quelqu'un vous parle du christianisme sans parler de la nouvelle naissance, sans mettre la nouvelle naissance comme un must, comme un sine qua non, comme un absolu nécessaire au salut, si un chrétien vous parle du christianisme sans que le salut soit un absolu, ce n'est pas du christianisme. Ce n'est pas vrai. Si une personne vous dit qu'elle est chrétienne et n'a pas passé par la nouvelle naissance, elle n'est pas chrétienne. Ce n'est pas vrai. Dans les Écritures, c'est clair. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu à moins d'avoir la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, elle est centrale. Tu ne peux pas être un chrétien authentique sans la nouvelle naissance. Un chrétien qui n'est pas nouveau, ça n'existe pas dans les Écritures. Et ça, c'est central au christianisme. D'accord? Alors, la nouvelle naissance est centrale au christianisme. Et aussi, elle est nécessaire. 1 Pierre 1:24, Pierre continue en disant ceci. Il dit, « Toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. » La raison pour laquelle la nouvelle naissance est si centrale et nécessaire, c'est qu'on est comme de l'herbe. On est comme de l'herbe. Jésus a sûrement parlé de la nouvelle naissance à bien des gens, mais l'apôtre Jean va choisir une rencontre où Jésus va parler de la nouvelle naissance, c'est avec Nicodème. Maintenant, il y a eu plusieurs rencontres où Jésus a parlé de la nouvelle naissance, ça c'est certain. Mais Jean va enregistrer dans son évangile qu'une scène, une rencontre, et c'est avec Nicodème. Et c'est par choix, il y a une raison pour ça, parce que Nicodème, c'est un gars qui avait pas mal tout. Nicodème, c'était comme je l'ai mentionné tantôt, c'était vraiment là, une personne très religieuse. C'était un pharisien. Oui, bien des pharisiens, on accuse d'hypocrisie, d'hypocrite et tout ça, mais il y avait quand même des pharisiens qui étaient très collés à la loi. Et dans le cas de Nicodème, c'est vraiment un homme sérieux. On ne le voit pas du tout hypocrite. C'est un homme qui se pose des questions importantes. Il y a une humilité qui est là. Il vient voir Jésus au risque de sa job, de tout son ministère. Et donc, on voit un Nicodème ici qui est un pharisien, mais un pharisien qui était sérieux. Et un pharisien, c'est quelqu'un qui passait plusieurs heures à étudier les Écritures, à étudier la Bible, l'Ancien Testament. C'était des experts de la Bible. C'était des gens qui passaient des heures et des heures à étudier la Bible. Ils enseignaient la Bible, ils étudiaient la Bible, ils méditaient sur la Bible, ils écrivaient sur la Bible. Et vous savez quoi? Les pharisiens, là, c'était des gens qui étaient très... Ils prenaient leur vie, leur sainteté très au sérieux. Et il y a une raison pour ça. C'est à cause de leur doctrine, leur conviction. Parce que les pharisiens, contrairement à d'autres parties du judaïsme, comme les sadducéens, les pharisiens croyaient à la résurrection. Et les sadducéens, ils croyaient à l'immortalité de l'âme, et il te fallait mener une vie qui était juste et sainte si tu voulais avoir un nouveau corps ressuscité pour entrer dans l'éternité. Donc, les pharisiens, c'était des gens très sérieux. En plus, Nicodème fait partie du Sanhédrin, qui est la cour suprême chez les Juifs. C'est lui qui tranchait les lois juives. C'est lui qui disait, tu as le droit, tu n'as pas le droit, là. Lui, il inventait les lois. Puis, croyez-moi, ils en ont inventé plusieurs centaines, puis des milliers même. Alors, Jésus va dire à ce Nicodème, extrêmement religieux, un homme qui passe sa vie à chercher, à s'améliorer, comment être plus saint, puis qui fait du bien, qui est occupé à étudier la Bible. Et Jésus lui dit, sais-tu tout ça, là? Tout ça ne te permet même pas de comprendre et de voir le royaume de Dieu. Parce que si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, tu ne pourras pas voir, comprendre. Tu ne pourras pas avoir la vision, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu ne pourras pas être sauvé. Tu vas rester perdu dans tes péchés. Ça veut dire que tu ne peux même pas comprendre, même si tu es le docteur en Israël, et on le voit d'ailleurs dans la discussion, comment il est mêlé, là, il ne comprend pas ces paroles de Jésus-Christ, même s'il est le docteur, il dit, tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. Il ne pouvait pas voir, parce qu'il y avait un voile sur ses yeux. Il ne voyait pas. Tout ça ne t'aidera pas, dit Jésus à Nicodème. Parce que voyez-vous, on est ravagé par le péché. Et Dieu nous voit. Et Dieu sait que nous sommes ravagés par le péché. Le péché, ça a commencé parce qu'on se prend pour Dieu. On veut faire nos règles. On veut mener notre vie. On veut prendre nos propres décisions. Alors, nous avons tous péché. Que ce soit un Nicodème, un homme religieux, qui ne peut même pas avoir le royaume de Dieu, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, ne peut pas être sauvé. Ou que ce soit une Marie Magdalène, qui est une pécheresse. Les deux, c'est pareil. l'extrême religieux, la religion extrême et une pécheresse comme Marie de Magdalène. Nous sommes tous, en fin de compte, de l'herbe. Nous sommes de l'herbe. On se fane, on est en train de se faner. Le péché nous a détruits. Nul n'est juste et nous sommes tous pécheurs. Et c'est la raison pour laquelle la nouvelle naissance est nécessaire, indépendamment de qui on est. Que ce soit, qu'on soit un Nicodème, qu'on soit Marie Magdalène, nous sommes tous au même niveau. Car nous sommes tous comme de l'herbe. Alors la nouvelle naissance, c'est central, centrale, nécessaire, et elle est définitive. 1 Pierre 1, 23 dit, en effet, vous êtes nés de nouveau. Intéressant, si le verbe être né de nouveau, c'est un parfait passé. Et ce que ça veut dire, ça s'agit d'un événement qui a eu lieu dans le passé, mais que les conséquences, les effets, les fruits durent toujours. Et c'est ce qui se passe ici. Les fruits de la nouvelle naissance se poursuivent. Donc, c'est les définitifs. C'est arrivé une fois. C'est ce qui arrive. Et c'est comme un bébé. Tu ne viens pas au monde 5-6 fois, tu viens au monde une fois et c'est définitif. Et les effets sont permanents. Il y a une sécurité dans ça, il y a une permanence dans ça. Quatrièmement, la nouvelle naissance est surnaturelle. Verset 23, il dit, en effet, vous êtes nés de nouveau. Écoutez bien ce qui est dit. Non par une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Vous êtes né nouveau. Le mot ici employé est intéressant. Ce n'est pas le mot habituel qu'on a. C'est le verbe naître ici. Ça ne parle pas du rôle de la mère. Vous savez, les maris, ils ne font pas grand-chose pour faire des enfants. Hein. C'est, ça ne travaille pas bien fort. C'est les femmes qui travaillent fort. Ça dure 9 mois, puis ils accouchent, puis c'est encore difficile, tout ça. Les maris ne font pas grand-chose. Mais les maris sont quand même importants. Hein? On connaît. Il y a quand même. Je n'irai pas plus loin ici. Là. Okay? Vous comprenez ce que je veux dire. Mais on parle ici de planter une semence. Et c'est le terme qu'on emploie ici. Il est donc dit que nous sommes nés de nouveau par une semence incorruptible, qui est la parole vivante de Dieu. Nous sommes, pour employer l'expression qu'on va voir plus loin, c'est que nous sommes devenus participants de la nature divine. Dans le fond, c'est qu'il y a une intervention surnaturelle qui est venue planter cette vie surnaturelle qui est en nous, cette semence qui a poussé, c'est surnaturellement, et la nouvelle naissance, donc, elle est surnaturelle. Ça, c'est la part de Dieu, c'est Dieu qui a fait cette intervention-là, qui a placé ça dans notre cœur. Voyez-vous? Une semence surnaturelle a été placée en nous surnaturellement, qui fait que là, tout d'un coup, ça pousse, il y a de la vie. Alors, la nouvelle naissance est centrale, nécessaire, définitive, surnaturelle, et elle est complète. L'expression « nouvelle naissance », c'est radical. Quand on dit « quelqu'un est né », c'est ponctuel, c'est unique, ça arrive une fois. Et à la nouvelle naissance, on se voit vraiment comme une nouvelle perspective. C'est complètement nouveau. On peut tout d'un coup voir le royaume de Dieu. On comprend le royaume de Dieu. Il y a des choses qu'on comprend. On a pu avoir lu pendant des années les Écritures sans comprendre. Puis tout d'un coup, paf, mon ami, il y a quelque chose qui se passe. Tu te convertis, tu passes par la nouvelle naissance. Et là, tu vois ce que tu ne voyais pas. Et c'est ça qui est magnifique. C'est surnaturel, mais c'est unique. C'est ponctuel, c'est spécial, c'est... Et Jean 3:3, il dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est cette nouvelle vision aussi. Ce n'est pas juste un accès au ciel, c'est aussi une vision. On commence à connaître Dieu. La nouvelle naissance nous fait voir le royaume de Dieu. Notre vision va changer radicalement. Et avant la conversion, avant de nous convertir, on n'avait jamais cette compréhension de Dieu-là. Mais quand tu es né de nouveau, là, tu commences à voir. Tes yeux s'ouvrent parce qu'une semence qui a été placée en toi, une semence incorruptible, c'est la parole de Dieu, permanente de Dieu. Alors, la nouvelle naissance est centrale, nécessaire, définitive, surnaturelle, complète, et elle est cohérente. Il y a des gens qui nous disent, « Ah, tiens, la nouvelle naissance, c'est pour les gens émotifs, pour les émotionnels. » Mais absolument pas. C'est pas ça que ça dit. Ça dit pas, le verset ne dit pas, « La semence incorruptible passe par les émotions. » Ça ne dit pas ça du tout. Non, elle passe par la compréhension de la parole de Dieu. Une personne peut avoir entendu le même message, la parole de Dieu, pendant des années. Pensez là aux enfants qui sont nés dans les familles chrétiennes. Ils sont emmenés à l'école du dimanche, ils viennent à l'église. Pendant des années, maman et papa disent, tiens, tu t'en viens à l'église. Ah, ça me tente moins, ça me tente pas, je suis fatigué. Non, non, tu t'en viens, viens. Tu t'en viens, tu sais. Hey, moi, j'ai négocié avec mes enfants. Non, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de négociations. Non, je disais, non. Je dis, tu t'en viens. Non, 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 tu t'en viens, garde. Vois-tu le toit, le plafond ici, là, ça, c'est moi qui paye ça, tu t'en viens. Je sais, mais, tu sais, Manny, tu es tellement fatigué que tu prends n'importe quel moyen, là, tu veux juste dire, tiens, emmène-le à l'église, là, tu sais. Puis, savez-vous quoi? Il me remercie aujourd'hui. Fait que, hey, écoute, grâce à Dieu. Fait que je sais que des fois, c'est des coups bas. Je dis, écoute, gars, c'est moi qui paye tout ça, etc. Attends d'avoir les enfants, puis ça fasse 10 ans que tu cherches toutes les raisons à tous les dimanches. Ça, tu es à court de raisons. Tu es là, tu as tout. Viens dans l'église. Non, mais tu t'en viens à l'église. OK, tu à l'église. Ah, ça, c'est tu sais quoi? Là, tu payes pour. Parce que là, en chemin, mon ami, moi, c'était 20 minutes pour me rendre à l'église. Là, puis là, mes enfants avaient toutes les bêtes en arrière. Là. Je regardais dans le miroir, là. Oh boy, je mettais. Tu sais, le miroir, tu mets au plafond, là. Tu mets ça, il est noir. Tu vois pas personne en arrière. C'est bien noir, teinté, là. Tu vois, moi, tous les dimanches matin, oh mon Dieu, ouais. Tu t'en vas prêcher à l'église. Tout le monde te regarde comme. Là, je disais, allez-vous-en voir votre monitrice d'école du dimanche. Oh boy. Quelle expérience. C'est tellement agréable élever des enfants. Je vous souhaite beaucoup d'enfants. Il y a plus de joie que de peine. Amen? C'est vrai. Non, c'est ça. On ne regarde pas. C'est bien. C'est une aventure. Ça nous fait grandir. Les épreuves nous font grandir. Alors, une belle joie d'avoir les enfants. Eh bien. Tu peux penser pendant des années, tu t'en vas à l'école du dimanche, tes parents de force pour aller à l'école du dimanche, tout ça, puis. Pendant des années, là, ils ont entendu toute l'histoire. Et je faisais un culte, des fois, un culte familial autour de la table. C'est-tu encourageant, tu ouvres la Bible? Ah, ce soir, on va lire, tiens, un passeur, David, Goliath, tout ça. On l'a entendu à l'école du dimanche. OK, bien, tiens, on va passer un autre passage. C'est... Ah ouais, la semaine passée, la monitrice a même montré un film là-dessus. Tu sais, quand. Très motivant, très inspirant, avoir des cultes familiales, ah, c'était super. C'était super. Puis là, mais on racontait l'histoire, les Écritures. Puis on y va, puis les enfants sont là, puis ça ne rentre pas. Absolument pas. C'est comme s'il y a un mur, puis ils t'écoutent, là. Puis ils écoutent, tu fais, pourquoi tu as fait ça? Tu le sais, tu l'as entendu à l'école du dimanche, puis tout ça, puis regarde, à la maison, on t'a enseigné, puis tout, tu le sais, ben, qu'est-ce qui se passe? À l'âge de 18 ans, hey, bye, s'en vont. 5 ans, bien loin de l'église. Aïe, aïe. Ah, qu'est-ce qui se passe? Puis après 5 ans, il arrive toutes sortes d'événements, tout ça, dans leur vie, toutes sortes d'affaires. D'un coup, ils reviennent, puis ils disent, hey, j'ai compris. J'ai compris. Je viens d'accepter le Seigneur hier soir. J'ai compris. Hey, papa, c'est pas merveilleux, ça? Hey, papa, hey, laisse-moi te lire un verset, Jean 3,16, papa. Hey, je sais pas si tu as déjà dit ça, papa, là, mais laisse-moi te lire. Ouais. Et puis, hey, là, tout est nouveau, c'est comme une nouvelle personne. Amen? C'est ça, la nouvelle naissance. Hey, c'est surnaturel, unique, c'est incroyable. Puis là, d'un coup, c'est même pas le même garçon. C'est complètement changé du tout au tout. C'est ça, la nouvelle naissance. Si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, tu ne peux voir le royaume des cieux. Tes yeux sont fermés, tu ne vois pas. Tu ne comprends pas, ce n'est pas là. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent. Moi, je me rappelle, il y a plusieurs années, je suis allé prendre un cours à l'Université de Montréal. Puis, je ne donnerai pas le nom, c'est enregistré, cette affaire-là. Sait-on jamais. Et puis, ce professeur-là, je m'en vais prendre un cours, la littérature intertestamentaire. Vous savez, il y a 400 ans de silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a un paquet de littérature qui s'est écrit, des lettres, tout ça, là. Et puis, moi, j'allais étudier ça. Et là, il y avait un spécialiste, un docteur de Jérusalem. C'était pas un rabbin, c'était un Québécois, mais il était allé faire des études, un doctorat à Jérusalem, tout ça, puis il enseignait. Mon ami, il parlait de Daniel dans l'Ancien Testament. Puis j'écoutais parler, puis je dis, mon ami, là, écoute, j'étais jeune, chrétien, ça faisait pas longtemps, là, puis je l'écoutais. Le gars, il était tellement dans le champ, complètement perdu. Il ne comprenait pas pendant tout le message de Daniel. Il n'était pas dedans du tout. J'étais là. Hey, le gars, c'est un docteur. Un gros job à 100 quelques mille piastres, je pense. Je ne sais pas c'est quoi le salaire des professeurs à l'Université de Montréal. Mais en tout cas, il était là. Il faisait des thèses et tout ça, des recherches. Hey, mon pasteur, moi, dimanche avant, là, venait de prêcher. Puis quand il prêchait sur Daniel, mon ami, c'est sûr que Daniel a des passages difficiles, mais on ne parle même pas de ça, on parle de la base. C'était complètement différent. Tu ne vois pas. Quand tu ne passes pas par la nouvelle naissance, tu ne vois pas. Une nouvelle naissance, c'est cohérent. Mais ça nous permet de voir ce qu'on ne voyait pas avant. Tu as pu lire la Bible. Bien des fois, tu ne le voyais pas, tu ne comprenais pas. Alors, la nouvelle naissance est centrale, nécessaire, définitive, surnaturelle, complète et cohérente. Vois-tu la nécessité de la nouvelle naissance? Sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas être saint et on ne peut pas gérer les souffrances de manière à grandir et être plus fort à travers les épreuves. Parce que ça transforme notre cœur du mieux en mieux. On a besoin de naître de nouveau. Comment on est de nouveau? Bien, c'est placer sa foi en Jésus-Christ, c'est croire. C'est venir à Jésus-Christ simplement, et dire, Seigneur, moi, je suis pécheur, je suis perdu, je le vois bien, je suis comme de l'herbe, je suis perdu, et j'ai besoin de la nouvelle naissance. Et je sais que Jésus, toi, tu es allé à la croix pour prendre ma place sur la croix, pour me sauver, parce que moi, je suis brade pour mes propres efforts. Alors moi, Seigneur Jésus, je te demande de venir dans ma vie, je te donne ma vie. Je ne peux plus vivre comme avant, Seigneur, je te donne ma vie. Et tu demandes à Jésus de te sauver, de pardonner. C'est ça la nouvelle naissance. C'est comme ça qu'on devient né de nouveau. Et tu sais quoi? C'est toute une expérience. Bon, on sent que ça nous change. Ça nous change. Il y a des gens qui disent, « Ouais, mais moi, je n'ai pas eu de conversion spectaculaire. Comment ça se fait? Peut-être que je ne suis pas sauvé. » Non, ça n'a rien à voir avec ça. Regarde les accouchements. Les accouchements, c'est différent. Tu as un bébé qui va venir au monde. Tu as une naissance, là, ça va être différent. Il y en a, mon ami, c'est 20 minutes. Ouh! C'est fait. C'est d'autres comme ma femme, c'était des heures, puis tu es là, puis tout, écoute, là, j'essayais d'encourager ma femme, je suis à côté du lit, puis je respirais à côté d'elle. Puis là, l'infirmière est venue me voir pour mettre une débarbouillette et prendre soin de moi. Un peu plus, je perdais connaissance. Ils étaient en train de ventiler, ça n'a pas de bon sens, tu es en train de faire l'hyperventilation, mais assis-toi, puis tout ça, tu as besoin, es-tu correct, puis tout. Moi, ma femme, t'as, oh! Hey. C'est différent. Il y en a, c'est 20 minutes. Ils sont sortis, ah, tout est beau, puis tout sont en pleine forme, comme s'il n'y a rien. Mon ami! Alors, c'est ça, la nouvelle naissance, c'est différent pour une personne pour une autre. Le message est le même, mais l'expérience va être différente. C'est vrai? Mais moi, j'ai entendu tout un témoignage, par exemple. Cette semaine, j'ai lu tout un témoignage. Une femme. Et gloire à Dieu pour elle. Le Seigneur est tellement bon. La nouvelle naissance, c'est tellement magnifique. Une femme qui s'appelle Brittany. Brittany. Ah. Écoutez, en 2010, vedette, une star porno. En 2010, la revue Maxim l'a nommée l'une des vedettes de films porno la plus populaire dans le monde. Elle s'est fait recruter à l'âge de 18 ans, alors qu'à 18 ans, elle voulait être actrice. Elle a été élevée dans une famille dysfonctionnelle. Elle est allée danseuse. Et puis là, deux hommes sont allés la voir alors qu'elle avait 18 ans. Ils sont allés lui offrir, lui ont dit, « T'aimerais-tu ça faire des films romantiques? » Alors, elle savait, elle a bien compris, elle a même d'ailleurs fait une blague. À la blague, elle a dit, vous voulez dire des films porno. Et finalement, elle a accepté, elle est allée là, puis elle cherchait désespérément l'amour. Et puis, elle est allée dans ce milieu-là, dans cette industrie pornographique. Puis au début, elle a dit, il me traitait comme une star, il me maquillait, prenait soin de moi, les cheveux, etc. Puis tout, puis là, ils l'ont habillée, elle avait l'air jeune, donc il l'a habillée même en adolescente. Pour essayer de plaire aux fantasmes des hommes qui étaient pédophiles, une tendance pédophile. Donc, ils avaient marché, ils avaient découvert un créneau. Et puis, ils la déguisaient en adolescente et tout ça, parce qu'elle avait l'air jeune. Et puis, ils lui ont fait faire toutes sortes de scènes et tout ça. Elle s'est rendue même à un moment donné, elle a travaillé pendant presque 60 jours, sans congé, 900 $ la scène de sexe. Et il y a eu un temps même qu'elle avait fait 3 scènes de sexe par jour pendant 16 jours en ligne. Pour faire 900 $ à chaque fois, mais vous savez quoi? Elle est devenue tellement découragée, désespérée, qu'elle même ne se sentait plus rien. Elle avait tellement mal au cœur, elle trouvait ça même répugnant. Elle a sombré dans la drogue, elle a commencé avec la cocaïne pour finalement se retrouver tombée dans l'héroïne. Elle était tellement désespérée, découragée, elle saillissait, elle ne voyait aucune issue, aucune sortie. Alors elle s'est tranchée les poignets pour s'enlever la vie. Ça n'a pas marché. Elle a essayé plusieurs fois. Elle a fait des centaines de films porno. Un jour, elle n'en pouvait plus, elle téléphone sa grand-maman. Et sa grand-maman a dit, écoute, j'en peux plus, viens me chercher. Alors, sa grand-maman est venue la chercher. Elle l'emmenait dans une église à San Diego, l'église de Rock Church à San Diego. Et puis, elle est allée là, puis à la fin, le pasteur a lancé une invitation pour accepter le Seigneur, passer par la nouvelle naissance et tout ça. Elle a levé la main, on s'est approché d'elle, on lui a donné une Bible, elle a commencé à dévorer la Bible. Elle a commencé à fréquenter un homme dans l'église et malheureusement, lors d'une journée, elle est allée au restaurant, puis une gang de motards sont arrivés, ils ont sauté sur son copain, ils l'ont battu à mort, coup de poignard, il est mort. Tellement découragé, elle est retournée dans la drogue et tout ça, découragée, s'est éloignée du Seigneur. Elle a continué dans le milieu pornographique, elle a essayé de se suicider à quelques reprises, mais sans jamais réussir. Mais Dieu courait après elle. Dieu la poursuivait. Un jour, imaginez, un jour, elle s'en va. L'an passé, après 7 ans de milieu pornographique et tout ça, l'an passé, elle s'en va dans une foire pour l'industrie porno. Ils ont ça aux États-Unis. Une foire pour l'industrie porno. Elle rentre dans la foire et tout ça, c'est tous les gens d'industrie, puis de films et tout ça, elle rentre et tout d'un coup, il y a un kiosque qui attire son regard, puis c'est écrit avec une grosse bannière, l'église XXX. Alors, ça l'attire, son attention, puis elle voit un genre d'affiche, un genre de banderole où c'était écrit « Jésus aime les pornos, les stars pornos. Jésus aime les stars porno. » Ça l'a frappé, découragé, désespéré, puis tout ça. Ça l'a attiré, est allé jusqu'au kiosque. Et la femme qui était derrière le kiosque, elle est très gentille. Il donne, ça a l'air, des centaines de Bibles dans cette foire de pornographie. Des centaines de Bibles, donne du café, donne même du baume à lèvres et tout ça. Et elle a commencé à parler à la fille et tout ça, puis elle a accepté le Seigneur. Et là, elle dit, j'ai vraiment compris. Elle a tout abandonné, elle dit, c'est fini, tout ça. Elle est rayonnante aujourd'hui, elle s'est trouvée un autre job, elle est sortie du milieu. Voici ce qu'elle a l'air aujourd'hui. Et prions pour elle. Brittany, ça vient d'arriver au mois de novembre dernier, que Dieu puisse la fortifier. Depuis ce temps-là, elle a téléphoné son frère, elle a conduit son frère au Seigneur au téléphone, parce qu'eux autres sont tellement étonnés de voir le changement chez elle. Son frère s'est converti. Sa sœur s'est convertie, elle s'est fait baptiser en même temps que Brittany. Ses parents, elle s'est réconciliée avec ses parents, puis maintenant ils vont tous à l'église ensemble. Voyez-vous ce que Jésus fait? Voyez-vous la nouvelle naissance, comment c'est différent, c'est surnaturel, unique, il n'y a rien de semblable. C'est tellement central au christianisme, des vies changées. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour des vies qui sont transformées par la puissance de l'Évangile. Merci pour Brittany et sa conversion. On te prie pour elle et sa famille, que tu puisses la protéger, la garder, la faire grandir en toi. Mais combien, Seigneur, c'est merveilleux de voir ta grâce et ta bonté, de voir comment tu aimes les Marie de Magdalene, tu aimes les Brittany de ce monde, tu aimes les Nicodèmes. Et Seigneur, tous et chacun, nous avons besoin de la nouvelle naissance. Nous te prions, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est ici ce matin, qui n'a pas cette assurance-là d'être passé par la nouvelle naissance, nous te prions pour lui ou pour elle qu'elle ne quitte pas ce lieu ce matin sans abandonner sa vie à toi et placer sa foi sur toi. Ô Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous te louons et te remercions pour des vies transformées et pour notre propre vie que tu transformes. Te glorifions, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.